S'il y a bien un thème qui est récurrent en Poutine à deux, c'est qu'apparemment, tous les chemins peuvent mener au développement de jeux vidéo. Étonnamment, ces cheminements-là très variés souvent forment des artisans avec une solide éthique de travail, avec de grandes qualités humaines, qui sont, avouons-le, assez en décalage avec l'archétype de développeur de jeux un peu asocial que l'on a tendance à attacher à notre industrie. Notre invité de ce soir, Charles-Antoine Guilmette, est titulaire d'une maîtrise en musicologie. C'est ensuite illustré dans une OBNL qui exposait des jeunes de milieux défavorisés à la production de jeux vidéo pour ensuite finalement passer au studio Alice d'Ubisoft Montréal. À titre de référence, le studio Alice chez Ubisoft Montréal est le studio qui s'occupe de la capture de performance que vous pouvez voir ensuite dans tous les jeux du groupe Ubisoft. En surface, tout cela a l'air assez déconnecté, mais vous allez assez rapidement vous rendre compte que la passion de Charles-Antoine pour la performance ainsi que le travail collaboratif rend ce cheminement-là un peu plus cohérent. Odile et moi-même avons eu la chance de rencontrer Charles-Antoine au Épi Poutine sur la rue Saint-Denis à Montréal. Notre intention était assez simple, nous voulions tout simplement découvrir comment engagement social, un amour profond pour la musique ainsi qu'une passion pour capturer l'émotion peuvent se combiner en une seule personne. Mon nom est Patrick Talen, je suis concepteur d'interface ainsi que producteur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 19 de Poutine à 2.
Donc Charles-Antoine, tu es gestionnaire de production chez Ubisoft et tu as aussi tout un background en musique, si je me trompe.
Oui, je suis musicien à la base. En fait, j'ai fait une maîtrise en ethnomusicologie. Et puis,
C'est tout un terme, ça. Il faudrait que tu nous développes un petit peu plus.
Oui, ethnomusicologie, dans le fond, c'est, pour mettre ça simplement, c'est l'étude de l'humain en train de faire de la musique.
OK, wow, c'est super intéressant. Enfin, le titre est vendeur, c'est ce que je veux dire. Et puis aussi, tu as travaillé en gestion de projet avec Fusion Jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire en quelques lignes en quoi ça consiste?
Oui, Fusion Jeunesse, c'est un OBNL en persévérance scolaire et en employabilité. Et dans le fond, j'avais fait un an à Fusion Jeunesse au tout début de l'organisme, là, en 2009, en musique, justement. Et mon rôle, c'était de faire des projets en musique à l'école secondaire Saint-Henri, qui est dans un quartier défavorisé. Et donc, il y avait des bandes de rock. J'ai redémarré la radio étudiante. J'ai eu une chorale, un talent show à la fin de l'année. Donc, c'était un beau projet avec une école qui en avait bien besoin puis qui était bien volontaire.
Ouais, il va falloir que tu nous racontes ça plus en détail aussi. Mais je pensais commencer déjà peut-être par te demander, mais comment t'en es arrivé d'avoir une volonté de faire de la musique et puis d'arriver au milieu des jeux vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un petit peu ton parcours, en fait? Comment t'es tombé dans la musique, dans les jeux?
Ça a toujours été mes deux passions, là, vraiment, les jeux vidéo et la musique. Et quand j'étais vers la fin de mon secondaire, puis qu'il était le temps de se trouver une carrière puis de choisir son parcours post-secondaire, j'ai regardé un peu, mais il n'y avait pas grand-chose qui se faisait en jeux vidéo. Il n'y avait pas de formation à Montréal. Il y avait un truc dont j'avais entendu parler à Vancouver. Et puis là, il y avait une école qui allait ouvrir à Montréal. Mais c'était tout vraiment centré sur l'animation 3D, sur le graphisme, etc. Puis ça, c'était pas ça ma tasse de thé. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, c'était plus game design, programmation. J'avais des idées de jeux, des trucs comme ça. Et donc, faute de possibilités.
Ouais. Hein, tu disais bien, ces gens qui travaillent dans cette industrie-là, ils doivent bien sortir de quelque part.
Oui, exactement. Mais j'avais aucune visibilité sur tout ça. Donc, je suis allé avec la musique, qui était mon autre passion. Et puis, je n'ai pas du tout regretté. J'ai fait des études, j'ai été dans des groupes. J'étais musicien professionnel pendant quelques années. Et à un moment donné, je suis allé faire des études au Brésil. Et en revenant, j'essayais de me trouver un emploi en musique, mais là, plus en rapport avec ma formation en anthropologie de la musique, hein, ethnomusicologie, c'est un peu ça. Et donc, finalement, j'ai retourné chez Fusion Jeunesse à cause de la vocation sociale et tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai vu ce projet-là passer de création de jeux vidéo. J'ai fait « Oh, c'est pour moi, ça! » Et donc, j'ai écrit une très belle lettre disant qu'ils n'avaient pas le choix de me le donner.
Puis ça fusionnait justement tes deux passions.
Ben oui, exactement. Et donc c'est ça, j'ai participé à démarrer ce projet-là en 2014. Donc, on a eu un premier projet pilote qui s'est fait de septembre à juin 2014 avec une école secondaire en milieu défavorisé. Cette fois-ci, c'était l'Académie Dunton.
Et en quoi ça consistait, en fait? Déjà, je ne sais pas si tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est Fusion Jeunesse.
Donc, le modèle de Fusion Jeunesse, c'est de réunir l'industrie, les écoles qui ont besoin d'un coup de main pour la persévérance scolaire et les universités. Donc, trois milieux qui ont à cœur la persévérance scolaire, mais qui ne se parlent pas nécessairement, ou en tout cas qui ne collaborent pas aussi bien qu'ils pourraient collaborer. Donc, c'est de là qu'est venue Fusion Jeunesse. Donc, moi, en gros, j'engageais des étudiants universitaires et eux conduisaient des activités avec des jeunes à raison de 2-3 heures par semaine sur toute l'année scolaire. Et à la fin de l'année scolaire, les jeunes, ils avaient appris comment faire un jeu, ils avaient appris à travailler en équipe. Ils avaient eu à respecter tout plein de contraintes qui étaient étroitement en lien avec le curriculum du programme de formation du ministère de l'Éducation. Donc, il y avait autant là, des notions de langue, de français, d'anglais, mais d'histoire aussi. Je me souviens que la première année, le thème, c'était la Nouvelle-France pour donner... aux jeunes l'envie d'aller étudier cette période-là, mais avec le médium du jeu vidéo, avec ce projet-là...
Tu essaies un peu de gamifier, un petit peu, ou de démystifier un terme ou une période historique qui peut être un petit peu fade, et puis d'essayer de la rendre plus... de l'enjoliver un petit peu avec quelque chose de ludique.
Les jeunes, ils se sont fait imposer ce thème-là, et au début, ils n'étaient pas très contents. Mais là, dès qu'ils ont commencé à faire des recherches, ils ont trouvé plein de choses super intéressantes. Et ça donne tout un autre angle d'approche à la même matière. T'sais. C'est surtout ça qui est intéressant dans ce projet-là. La gamification du projet, elle s'est fait un peu à travers certains profs qui ont poussé cet aspect-là. Par exemple, si les jeunes ne manquaient pas d'activité ou ils travaillaient bien, ils avaient des genres de récompenses, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas ça qui était vraiment au cœur du projet. C'était vraiment plus utiliser cet intérêt-là que les jeunes ont pour les jeux vidéo et puis leur créer des... Et les margaritas.
Donc, pour créer...
Donc utiliser cet intérêt-là que les jeunes ont pour le jeu vidéo... et les amener à faire des recherches en histoire.
Et alors, est-ce que les résultats, justement, ont été probants? Est-ce que les jeunes étaient motivés?
Ah oui, absolument, absolument. Il y a des jeunes qui se sont découverts des passions. Il y a des jeunes qui... ça a été très, très bénéfique pour la plupart des jeunes qui ont fait le projet. Il y en a qui se sont fait des amis. Il y en a qui ont... Le taux d'absentéisme de ces élèves-là ont en général baissé. Ils allaient plus à l'école parce qu'ils savaient qu'après les cours ou le midi, il y avait l'activité, donc ça les amenait à rester un peu plus à l'école. Et non, ça a été un franc succès. Ça l'est encore, en fait. Cette année, ça continue.
Ça poursuit toujours,
oui,
c'est
oui,
ça.
Exactement.
Et puis, si je ne me trompe, Fusion Jeunesse, c'est... est-ce que c'est seulement la part jeux vidéo? Alors, ça comprend toutes les activités qui peuvent justement contrer au décrochage scolaire?
C'est vraiment là où il y a de l'intérêt des jeunes. Fusion Jeunesse essaie d'aller faire des projets et en allant chercher un partenaire de l'industrie, ce qui est une composante essentielle du modèle. Et dans ce truc-là, il y a des projets en cinéma, il y a des projets en robotique, il y a des projets en design de mode, en architecture, en fait plus comme en design de l'environnement, et j'en passe. Donc, tout plein de sujets qui passionnent les jeunes et à travers lesquels on peut les amener à rester le plus à l'école et les faire apprendre les mêmes matières qu'ils étudient, en fait, dans leur cours de maths ou de français, mais... avec cette carotte-là au bout du bâton.
D'accord. Est-ce que, justement, tu as l'idée d'autres projets dans, dans l'optique de Fusion Jeunesse? Il y a d'autres choses que tu avais tenté de mettre au
oui,
du jour?
Oui, cette année, en fait, vu la grande croissance de l'intelligence artificielle à Montréal, on est allé faire des recherches, puis j'ai démarré un projet en intelligence artificielle à Fusion Jeunesse. En partenariat avec toutes sortes d'organismes qui étudient là-dessus, comme IVADO, Université de Montréal et Element AI. Et donc, les jeunes ont fait toutes sortes de choses par rapport à l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a une classe de français qui a créé un cahier sur l'intelligence artificielle, donc avec toutes sortes d'enjeux de société qui les intéressaient. Et donc, ils ont dû écrire des textes argumentatifs sur ces enjeux-là.
Ça les encourageait à faire des recherches aussi.
Oui, absolument. Donc, des recherches, on les a aidés à faire des recherches parce que des fois, juste Google, comme ça, tu tombes sur n'importe quoi. Mais justement, je pense qu'on leur a appris à faire des bonnes recherches sur Google, utiliser les bons mots-clés, faire le tri dans qu'est-ce qui est de l'information pertinente ou pas. Les enjeux qu'ils ont choisis, c'était vraiment très mature, très intéressant. Vraiment, on allait là... des robots androïdes qui allaient voler leurs emplois. Ou, t'sais, on voyait qu'il y avait des craintes chez les jeunes sur ces trucs-là, qu'on s'imaginait pas que c'était si intense que ça. T'sais. Et donc, il y a eu des discussions très enflammées en classe, etc., et très intéressantes. Et c'est ça, en finalité, c'est vraiment, ils ont dû se mettre en équipe et écrire des textes. Et ce projet-là, en fait, il a été présenté au premier ministre, Philippe Couillard, qui a beaucoup apprécié notamment les recherches que certains jeunes avaient faites sur l'intégration de l'intelligence artificielle en médecine. Il est médecin à la base. Donc c'est ça, ça a très bien été, ce projet-là. Et je pense que là, je suis un peu... je suis plus tellement dans la loupe, comme on dit, mais je pense que ça continue bien et... Et cette année, d'après moi, il y a plusieurs écoles qui vont faire le projet.
Okay. C'est super intéressant. Je te propose qu'on prenne une courte pause, en fait, avant d'enchaîner sur d'autres questions. Donc, Charles-Antoine, qu'est-ce que ça mange comme poutine? un Charles-Antoine?
Charles-Antoine aime beaucoup essayer de nouveaux trucs. Donc, là, la poutine que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une poutine aux ribs, aux côtes levées, et porc effiloché. Et c'était vraiment délicieux.
Ça a l'air d'être un beau programme, en effet.
Oui, oui. Pas tout à fait léger, mais succulent.
Il y a des choses qui ne riment pas très bien avec poutine, comme léger, en fait.
Oui, non, c'est ça. C'est pas un mot qu'on associe souvent à la poutine. Non, mais poutine, c'est jamais aussi bon qu'après une soirée un peu arrosée
voilà, donc pour
dans le centre-ville de Montréal.
C'est ça, on vous fait quelques suggestions culturelles en même temps. Alors, Charles-Antoine, qu'est-ce que ça mange en été, un gestionnaire de production chez Ubisoft, je veux dire, en termes de poutine, qu'est-ce que ça mange?
Ça mange toutes sortes de poutines. En fait, c'est une poutine qui est très variée, qui est très, qui a beaucoup de légumes, de viande, de frites. Autre ça, gestionnaire de production au studio Alice chez Ubisoft, c'est différent de gestionnaire de production dans une équipe de développement, dans une équipe de production de jeux. Donc, moi, ce que je fais chez Alice, dans le fond, c'est que je suis dans le poste, c'est la porte d'entrée pour tous les services que Alice offre au reste des équipes de développement de jeux d'Ubisoft. Et nous, on est comme des partenaires de production pour ces équipes-là. Et on fait beaucoup de choses différentes, dont on fait tout ce qui est en audio, donc l'enregistrement de voix, la VO... post-production de voix, mais on fait aussi les effets sonores, les effets après-voix, le Foley. On a un des seuls studios de Foley en Amérique du Nord, en tout cas dans une entreprise de jeux de vidéo. Et on fait aussi en audio. Là, je ne vais pas me rappeler de tout ce qu'on fait parce qu'on en fait tellement. Mais mettons pour l'audio, c'est ça. On a aussi des services de casting pour trouver les bons talents qui vont faire les voix, etc. Et surtout, chez Alice, ce qu'on fait, c'est la capture de mouvement, la capture de performance. Ça, c'est vraiment l'occupation principale de la boîte. Et on a un studio de capture de mouvement qui est au Chapangus à Montréal. Un très, très bel espace, très bien équipé. Et en fait, c'est de ça qui est venue la nécessité de créer l'entité du studio Alice chez Ubisoft. C'est que tout d'un coup, la technologie est arrivée pour faire de la capture de performance, c'est-à-dire avec les casques qui ont des caméras qui sont pointées vers le visage des gens et qui sont capables de suivre les mouvements de tous les... Pas tous les muscles, mais de, je pense, une cinquantaine de muscles du visage pour que dans les jeux, ce soit encore plus réaliste. Le mouvement suit vraiment l'émotion de l'acteur.
C'est ça, parce que pour faire un rappel, en fait, bon, en termes de développement de jeux traditionnels, en fait, on a des animateurs qui vont en fait donc créer des personnages de toutes pièces et qui vont créer les animations des personnages, enfin leur façon de bouger, leur façon de justement de aussi de, enfin comment dire, on va animer leur visage, essayer d'avoir un certain réalisme en fait. Et c'est quoi l'intérêt en fait d'avoir justement la capture de mouvement ou d'avoir la chance en fait de faire ça, juste pour expliquer un petit peu peut-être à nos auditeurs qui sont pas très familiers avec ces principes-là, en quoi consiste l'avantage d'avoir ce studio-là.
C'est vraiment, je pense, au niveau de l'émotion. Vraiment, il n'y a rien qui remplace l'émotion naturelle, l'être humain, des acteurs qui jouent ensemble, donc la complicité. Et c'est extrêmement dur de reproduire ça avec de l'animation, du keyframing, comme on appelle, etc. Donc, vraiment, c'est ça qu'on va chercher, les mouvements naturels du corps en train de faire toutes sortes de choses. Des fois, c'est juste marcher, des fois, c'est juste avoir une conversation, mais des fois, c'est de courir sur des murs ou de faire des backflips ou... sauter de 2 mètres de haut.
Tout ça te permet d'avoir quand même un range d'animation qui est assez varié et puis qui peut être fait assez rapidement, parce que tu peux demander ce que tu veux à un acteur en fait par rapport.
Oui, si tu lui demandes des choses dangereuses, il faut que ce soit un cascadeur.
Tu ne peux pas demander n'importe quoi à n'importe qui.
Surtout pas, on les traite bien, nos acteurs, on les aime beaucoup. Et donc c'est ça, c'est les gens du casting qui vont connaître le réseau des acteurs qui font ce genre de trucs-là à Montréal, mais aussi ailleurs, au
justement,
Canada.
Justement, en fait, comment ça marche? À qui vous avez affaire? Est-ce que, donc, tu me parlais de cascadeurs. Qui sont vos acteurs? Est-ce que ce sont des acteurs anglophones? Est-ce que ce sont des acteurs... Est-ce que tout le monde prête sa voix à un personnage? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui font juste de la capture de mouvement? Enfin, comment ça se passe?
En fait, dans un jeu, je pense qu'il y a juste quelques personnages qu'on va faire la capture des mouvements. Si je parle d'un jeu comme Assassin's Creed, c'est certain que tout ce qu'on appelle les personnages principaux, le main cast, oui, ça va être des vrais acteurs qui vont avoir fait les scènes dans notre studio de capture de mouvement avec le suit, puis les capteurs, puis les caméras, tout ça. Mais tout ce qui est side quest, etc., ben là, il y a d'autres processus qui vont s'appuyer sur des données mocap, qu'on appelle capture de mouvement, et pour que ça soit le plus réaliste possible, etc. Mais avec les jeux à monde ouvert que Ubisoft fait, c'est tellement un monde varié, immense et riche que si on faisait tout en capture de mouvement, je pense qu'on serait encore à Assassin's Creed 2.
oui, tellement il y a pas mal de choses variées à faire, OK. Est-ce que, justement, vous avez... comment ça marche, en fait, la capture de mouvement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Tu as comme une espèce de salle de jeu dans laquelle tu peux absolument tout faire. Et puis, qui est-ce qui s'occupe un petit peu de ces performances-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui guide des acteurs? Est-ce que...
Oui, exactement. Donc, quand les projets, on appelle les projets, c'est les équipes de développement de jeux vidéo, approchent Alice pour faire un tournage de mocap, on rassemble justement tout plein de spécialistes qui vont mettre en branle tout le processus. Et donc, c'est ça. Donc, le casting, ils vont parler avec les gens du projet, essayer de comprendre leur goût, leur soumettre quelques candidatures. Et ça peut être des gens qui sont des locaux ici à Montréal, mais des fois, ils vont très, très loin pour trouver la perle rare qui va vraiment qui va vraiment être dans l'idée du personnage tel que l'ont imaginé les développeurs. Et après, ben, dans notre studio de mocap, en fait, t'as des gens qui sont des shoot managers et qui, eux, vont organiser tout ce qui est l'horaire, aller engager certaines personnes qu'on engage à la pige, comme ça, je sais pas, pour faire les perchistes, pour prendre le son, mais aussi des assistants de production, des trucs comme ça. Et on a tous nos spécialistes mocap qu'on engage chez Alice, tout ça, qui, eux, vont aider à ce que tout se passe bien au moment du tournage, mais qui vont aussi traiter les données après le tournage mocap. Parce que quand les acteurs, ils ont le costume, le suit avec tous les marqueurs, tout ça, il y a une centaine de caméras, il y a je sais pas combien de marqueurs, mais c'est pas juste les acteurs aussi, en fait, les objets qu'ils ont dans les mains.
OK, en fait, ouais, t'as des espèces de props qui servent d'armes, en fait, mais qui sont plus là pour simuler une arme que vraiment pour...
Exactement, pour simuler le poids et la forme, pour que, encore là, quand l'acteur le tient dans les mains et fait des mouvements ou tout ça, ben ça a l'air naturel. T'sais. C'est vraiment ça le but, c'est de rapprocher le plus possible le jeu du réel pour que ça soit complètement immersif pour le joueur. C'est vraiment le grand but de tout ça. Et donc, c'est ça, quand il y a plusieurs acteurs qui font des mouvements en même temps, qui parlent, ben là, tu as des gens qui captent le son, qui vont séparer les fichiers audio, etc.
OK, donc en fait, il y a du son qui s'enregistre en même temps que la performance. C'est pas deux processus complètement séparés, en fait.
Ça peut être fait séparément, mais c'est jamais aussi bon quand c'est fait en même temps et qu'on capte le son en même temps que l'image. Le processus de le faire séparément, c'est un processus qu'on appelle du ADR. Et puis... avec la technologie, ça donne d'excellents résultats. C'est jamais aussi excellent que quand c'est fait à la source. Et donc, c'est ça. Mais là, les données de capture de mouvement, c'est-à-dire la position de chaque marqueur fois 6 ou plus acteurs, tout ça, ça fait énormément de données de géolocalisation, petit truc-là. Et donc, il faut... à un moment donné, amener ça dans l'engin de jeu. Et donc, il y a des étapes intermédiaires qu'on appelle le tracking puis le retargeting qui vont servir à nettoyer, épurer les données qui sont sorties du système et les recoller sur, en fait, le squelette du personnage qui, lui, va être dans le jeu. Donc, que ce soit un humain ou des fois, c'est un monstre ou je sais pas quoi. Ils vont comme s'assurer que tous les membres bougent bien et donc c'est un travail minutieux. On est chanceux d'avoir des personnes qui sont extraordinaires et qui font très 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 bien ça. Et donc, juste des fois qu'un acteur prenne un verre, le pose sur une table, ben là t'as la rencontre entre la surface de la table, entre la main et la table, entre le main et le verre, entre le verre et la table, tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses de s'assurer que le résultat soit beau. T'sais, on a tous vu des vieux jeux où c'est que les gens flottaient un peu. Je ne sais pas tout à fait où ça. T'sais.
On m'avait expliqué, en fait, en tant que writer, que la pire chose que tu pouvais demander à des acteurs qui font de la mocap, c'est de filmer une scène de baiser, en fait. Parce que je pense que tu connais bien l'équipement.
Ça obfusque beaucoup de marqueurs, effectivement. Des choses qui sont difficiles à faire aussi, c'est des roulades.
Okay, bah oui, parce qu'on a, bah surtout dans le cas de motion capture, en fait, t'as vraiment une espèce de caméra braquée sur ta face. C'est comme une espèce de... Enfin, donc, c'est vraiment pas pratique pour...
Non, effectivement. Souvent, ce qui est fait, c'est on fait ça en deux temps. Donc, une fois, on va le faire sans casque, avec des genres de lunettes qui servent à traquer la position de la tête. Et puis, une autre fois, aussi que là, ils vont comme... faker un peu à distance et puis pour que l'on ait les mouvements des muscles du visage. Ouais.
Et alors, c'est quel genre d'acteurs avec lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est essentiellement des acteurs anglophones ou alors qu'est-ce que ça prend en fait pour faire de la mocap? Est-ce que vous allez chercher des gens du cinéma et vous les amenez dans le jeu vidéo? Est-ce que...
Ben, moi, je ne suis pas un expert là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que... Il y a des gens très spécialisés en casting chez Alice.
Ouais, je veux dire,
mais en gros, de qu'est-ce que j'ai vu, moi, c'est des gens qui viennent du milieu du cinéma et qui sont très, très bons pour rapidement faire plusieurs rôles. Il y a ça qui est important, la versatilité, pouvoir faire deux, trois personnages au cours d'une même journée. C'est vraiment précieux parce que là, on n'a pas engagé trois personnes. On peut engager une seule personne qui fait ça. Et puis, il faut savoir bien bouger en général. Donc, tu sais, dans beaucoup de jeux, on a des gens qui... On les voit marcher, tu sais. Ben il faut comme marcher de façon assurée. Même quand tu es immobile, il faut toujours être à une position particulière. Il faut toujours que tu sois en train d'acter, comme on dit, là. Et c'est ça qui est important, des gens qui sont capables de rester dans le personnage, de changer souvent de personnage.
Surtout qu'on n'oublie pas que tu n'as pas énormément de décors et que tu es un peu comme dans une espèce de salle de jeu dans laquelle tu as juste un terrain et puis vraiment des props, comme on
disait
tout à
l'heure.
Oui, ça
prend l'imagination, effectivement. C'est un peu comme jouer devant des green screens, comme, je ne sais pas moi, pour les films de Star Wars ou les trucs comme ça. Là. Il faut être capable de se mettre dans l'ambiance.
Merci, je pense qu'on va prendre une courte pause pour clôturer ce segment et on se retrouve dans quelques instants. Justement aussi, je me demandais tout à l'heure, tu mentionnais, tu parlais d'une maîtrise en, attention, je ne sais pas si je vais réussir à bien prononcer ça, en ethnomusicologie.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver, l'ethnomusicologie, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu as fait dans cette maîtrise?
Donc, mon mémoire de maîtrise, il portait sur les relations de pouvoir entre les musiciens durant la performance d'un style particulier de musique qui se fait à Rio de Janeiro. Donc,
spécifique.
C'est spécifique, mais c'est parce que, quand tu fais de l'ethnomusicologie, le côté ethnographie, il y a toujours un travail de terrain qui vient avec. Et plutôt que de faire un genre d'étude universelle sur... on va étudier un cas spécifique, puis s'il y a des choses qui s'appliquent à d'autres gens...
Tu les transposes
après. Ça viendra,
après.
Exactement. Après, on peut étudier d'autres trucs. D'ailleurs, l'idée au début, c'était de faire une comparaison entre ce qui se passe à Rio dans ce style musique-là qu'on appelle Choring, et puis un contexte qui un peu ressemble, et qui est celui de la musique traditionnelle québécoise, qui est inspiré de la musique irlandaise, tout ça. Et donc, mais rapidement, je me suis rendu compte que pour pouvoir étudier ça, il faudrait que je fasse deux travaux de terrain. Et donc, j'avais pas le temps. Une maîtrise, ça passe très rapidement. C'est 2 ans que tu vois pas passer. Et donc, j'ai joué dans ces groupes-là. J'ai vraiment étudié de l'intérieur qu'est-ce qui se passait pour voir comment est-ce que les musiciens... C'est des rencontres entre musiciens qui se veulent vraiment informels et puis tout le monde sur un même niveau d'égalité. Mais je me suis rendu compte que, dans le fond, il y a toutes sortes de politiques qui sont en place. Et donc, j'ai étudié comment est-ce qu'ils décident, c'est quoi, ça va être quoi la prochaine chanson ou qui va faire le prochain solo. Et comment, à travers le matériau musical, à travers la façon de jouer, les notes, etc., les musiciens communiquent entre eux ces intentions-là. Par exemple, je suis en train de jouer un solo et puis je pense que j'ai terminé. Et donc, une façon de jouer pour laisser l'espace à d'autres musiciens de reprendre le flambeau puis à leur tour jouer. Ou à l'inverse, je peux jouer d'une autre façon qui va faire que ça va être très, très, très clair que je laisse pas ma place à d'autres et que je vais continuer le solo sur l'autre partie de la musique qui s'en vient.
Donc, il y a comme toute une forme de communication, en fait, pour que les musiciens s'organisent entre eux et puis jouent ensemble, en fait, quelque part.
Exactement. Puis quelqu'un qui a un background en musique est à même d'analyser le matériau musical. C'est ça qui différencie un ethnomusicologue d'un anthropologue ou d'un ethnographe.
Quand tu parles de forme de pouvoir, en fait, à quoi ça vient faire référence?
Parce que ça a tout à voir avec ça. Si t'es comme un nouveau Canadien qui arrive sur la scène de Rio, tu t'intéresses à leur musique, les gens vont bien aimer ça. Et donc, ils vont te laisser beaucoup de place, ils vont te laisser beaucoup de pouvoir sur le choix des chansons. Donc, tu sais, cet espace-là qui te laisse, c'est du pouvoir. J'ai intégré des notions de Foucault dans la recherche, tout ça. J'ai fait mes devoirs. Et puis, Et donc, mais aussi les gens qui ont une certaine réputation, on va avoir plus tendance à les laisser lider la patente, comme on dit. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est ça qui m'a titillé un peu au début, le fait qu'on présentait ça comme un truc complètement comme démocratique. Toutes les voix sont égales, etc. Et finalement, c'est pas du tout ça. La réputation des gens, mais aussi la façon que tu joues. Si tu joues puis tu te plantes, c'est pas toi qui vas choisir la prochaine chanson. Ça, c'est cruel, peut-être, sur ce coup-là. D'accord. Les gens sont prêts à pardonner, surtout que ça se fait, ça se joue dans des bars avec un petit verre dans le nez, tout ça. Des fois aussi dans des contextes très formels, mais moi, ce que j'aimais bien, c'était quand contexte informel, comme ça.
Et alors, justement, avec quel bagage t'es ressorti de cette maîtrise-là ou qu'est-ce que ça t'a permis de développer, peut-être comme grille d'analyse ou que t'as pu transposer plus tard dans autre chose?
Bien, je pense que qu'est-ce que j'ai retenu plus, c'est au niveau de l'empathie, c'est au niveau de s'attarder à qu'est-ce que l'autre dit et puis dans quel contexte il le dit. C'est quoi son contexte à lui pour qu'il te dise les choses de cette façon-là? Et je pense que c'est ça qui m'a... C'est ça que je suis allé tirer de ça et qui, après ça, quand venu à Fusion Jeunesse, l'opportunité de croiser plusieurs milieux qui ne se parlent pas nécessairement tout le temps et de faire de la gestion de personnel. Et ben, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé, contact humain et puis empathique, comprendre un peu mieux les gens. Parce que moi, j'étais un bon gamer de sous-sol qui avait des amis, mais qui n'avait pas les compétences sociales les plus aisées, mettons.
Et donc, grâce à ce partage de compétences, en fait, tu as pu acquérir quelque chose que tu n'aurais pas du tout acquis dans une école de game design. S'il y en avait une qui avait ouverte à l'époque où tu cherchais justement à partir.
Effectivement, c'est pas quelque chose que j'aurais été chercher là, je pense. Là. Et puis, c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans mon poste comme gestionnaire de production à Ubisoft, qui m'aide énormément et dont je me sers à tous les jours, parce que là, c'est vraiment de faire le pont entre les équipes de développement des jeux et les autres équipes plus techniques chez Alice. Et donc, des fois, faut savoir lire entre les lignes. Faut établir des moyens de communication qui sont efficaces, s'assurer que tout le monde a la bonne information, etc. Donc ça, je suis beaucoup là-dedans. Ça me passionne de mettre sur pied des projets. Je mets pas des projets sur pied là-bas, mais je coordonne l'activité des différents services.
Tu arrives à mettre de l'humain justement dans cette coordination parce que grâce à des backgrounds transversaux, en fait, enfin, des compétences transversales, tu arrives à aller chercher ce que peut-être, comme disais, une formation assez pratico-pratique de comment faire mes tâches aurait pu t'apporter ou plutôt.
Exactement. Il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon d'écrire des courriels. Et ça, il y a une éthique hein, vraiment qu'il faut respecter dans ce milieu-là comme dans tous les autres. Mais ça, c'est très important pour bâtir des relations de partenariat qui sont à long terme, qui sont durables. Exiger des choses impossibles aux gens, ça donne pas des bons résultats. Peut-être à court terme, mais pas à long terme, ça c'est clair.
Est-ce que tu aimerais utiliser cet outil pour faire autre chose que de la gestion de production à l'avenir? Ou est-ce que toi-même, tu as des projets?
Pour l'instant, j'apprends tellement à chaque jour dans cet emploi-là que des projets personnels, j'en ai quelques-uns, mais ce que je fais à tous les jours, ça me passionne. Et puis, comme on dit, j'ai encore des croûtes à manger pendant un certain temps.
Ça fait pas encore 40 ans que t'es là, donc t'as pas encore épuisé tout ce que t'avais
à voir. Exactement, exactement. Pour l'instant, il y a un beau croisement entre mes projets personnels puis mes projets professionnels. Et malgré que j'ai des projets, tu sais, de musique, mais comme sans ambition, vraiment pour le plaisir, comme ça, ça va très bien comme ça.
Merci Charles-Antoine. Je te propose qu'on prenne une petite pause histoire de digérer cette poutine qui était ma foi pleine d'ingrédients comme tu l'as décrit.
Inconsistante.
Bien consistante, ouais. Comme on a pu le comprendre. Donc tu nous parlais tout à l'heure de tes projets personnels qui coïncident un petit peu avec ceux d'Ubisoft, donc on imagine que tu peux pas trop nous en parler maintenant, mais si on veut se tenir à jour de ta carrière et des avancées de tes projets, vers quelle plateforme devons-nous nous tourner?
Je pense que la plateforme qui est le plus à jour sur mes réalisations, c'est probablement LinkedIn. Donc ça, c'est...
Vous pouvez trouver à Charles-Antoine Guimette.
Exactement. Je suis dans la création d'un band en ce moment, mais c'est vraiment top secret, là, encore plus que les projets chez Ubisoft. Là.
Tu l'annonceras sur tes réseaux sociaux.
Exactement.
D'accord. Et si on veut suivre un petit peu les activités qui se passent au niveau du Studio Alice, est-ce que le Studio Alice a une plateforme sur laquelle, je sais pas, il parle un peu de la vie, de ce qui se passe là-bas, ou si on veut en apprendre plus sur ce studio, il n'y a rien du tout?
Alors, je vous invite à regarder les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram d'Ubisoft Montréal. Pour vous tenir au courant de tous les derniers développements de nos projets.
Et pour Fusion Jeunesse, vers quoi on peut se tourner aussi pour suivre la suite des choses?
Le site web de Fusion Jeunesse, mais aussi sur Facebook, ils sont assez actifs. Et donc, en ce moment, ils sont en recrutement, justement, et pour la prochaine année scolaire. Mais souvent, ils ont des nouvelles sur les réalisations des jeunes. C'est ça qui est le plus important.
Merci beaucoup, Charles-Antoine.
Donc oui, nous voilà de retour au studio pour la conclusion. Donc d'abord, si c'est votre premier contact avec Poutine à 2, nous vous invitons bien évidemment à vous abonner à Poutine à 2. C'est très simple. D'abord, si vous êtes dans l'écosystème Apple, vous avez tout simplement à ouvrir Apple Podcasts, chercher Poutine à 2 et appuyer sur le petit bouton d'abonnement. Dans l'éventualité où est-ce que vous trouvez dans une plateforme qui n'a pas accès au catalogue de podcasts d'Apple, on vous invite tout simplement à aller au radiokawa.com dans la barre de navigation, trouver Poutine à 2 et sur la page de Poutine à 2, vous aurez accès à différents fils XML qui sont compatibles avec différentes applications de podcast. Donc, capturez ce fil-là et vous devriez avoir accès à nos prochains épisodes. D'ailleurs, si vous êtes évidemment dans le système Apple, vous pouvez aussi nous laisser des notes et des commentaires à l'émission. Évidemment, on a une sensible préférence pour les notes de 5 étoiles, mais n'hésitez pas à mettre des notes un petit peu plus basses et prenez, s'il vous plaît, la peine d'expliquer en quoi on pourrait définitivement améliorer l'émission. Poutine à 2 est présent sur les médias sociaux. Vous avez tout simplement à aller sur Twitter, Facebook et chercher l'identifiant Poutine à 2, donc à commercial PoutineAdeux. De cette manière-là, vous allez être connecté avec nous. Et vous allez être au courant des prochains épisodes s'en vient. Et de temps en temps, on vous offre l'opportunité aussi de poser des questions et mettre des commentaires sur l'émission, histoire, encore une fois, de vous permettre de vous accaparer un peu le processus créatif des épisodes. Et si vous êtes un peu comme moi, de la vieille école, vous avez une petite crainte des réseaux sociaux qui sont en train de déchirer notre tissu social, vous pouvez évidemment utiliser notre adresse de courriel, nous contacter. Donc, l'adresse est très simple. Encore une fois, c'est poutineadeux@commercialradiokawa.com. Donc, poutineadeux s'appelle PoutineAdeux @radiokawa.com. On va y aller avec les remerciements. Donc, bien évidemment, j'aimerais remercier Charles-Antoine pour cette fabuleuse discussion. C'était très plaisant. On a été à des espaces qu'on ne s'y attendait pas, donc je suis vraiment reconnaissant. Tant qu'à y être, j'aimerais aussi, bien évidemment, remercier Fabrice Giguère de chez Ubisoft Montréal qui a rendu cette conversation possible. Très étonnamment aussi, j'aimerais remercier Odile pour cet entretien. Ça a été très plaisant. Elle a fait un bon travail de recherche et posé les bonnes questions. Aussi, j'aimerais remercier l'équipe Radio Kawa, donc Julien Brault pour l'enveloppage visuel de Poutine à 2, ainsi que Benji Pess pour l'enveloppage musical. Et allons-y, soyons ringards. J'aimerais évidemment vous remercier pour le temps et l'amour que vous mettez dans Poutine à 2. Très étonnamment, il y a un nouvel épisode qui s'affiche déjà à l'horizon. Donc oui, le 12 septembre 2018, ouf, on a passé proche, nous allons avoir un nouvel épisode de Poutine à 2. Cette fois-ci, je vais converser avec Patrick Hillé, stratège chez Loto-Québec. À titre de référence pour notre public européen, Loto-Québec est la société d'État ici qui s'occupe des jeux de hasard et d'argent. Petite parenthèse, Loto-Québec de plus en plus est présent dans les événements de jeux vidéo. On a la DreamHack qui s'en vient dans pas long, qui est évidemment un grand tournoi de jeux vidéo compétitifs. Loto-Québec s'implique encore là-dedans, donc je suis très curieux de ces initiatives-là. Je veux voir vers où ça tend. Donc, c'est donc un peu pour ça que je veux m'asseoir avec Patrick. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir! Da 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 da
souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.
Faudrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.